RTF Limoges, le magazine culturel.
Patrice Perrieras, je te remercie vraiment infiniment. Je suis très touché que tu aies accepté de nous recevoir pour cette interview, pour ma radio à Limoges qui est Radio Trouble le Fait, une ville qui te tient à cœur. Pour te présenter, pour ceux qui te connaîtraient pas encore, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, je dirais que tu es passé de Barbara à Michel Legrand, Barbara avec Depardieu et Lily Passion, on en reparlera, de Limoges au monde entier, du classique à la chanson française, au jazz et au lyrique. Tu es pianiste, chef d'orchestre, compositeur, orchestrateur, tu as remporté 3 Molières. Et puis de ton studio de Landouge, je dirais à la scène, et puis au fond d'orchestre, et avec Corydalis. Alors, j'ai retenu, en préparant un petit peu cette interview, 2 phrases qui m'ont marqué. D'abord, tu es considéré comme le fils spirituel de Michel Legrand. Et puis, cette phrase que j'ai retrouvée dans une interview du Populaire d'il y a 6 ans, au moment du décès de Michel. Et tu disais, avec Michel, c'était le plaisir ultime de l'harmonie. Alors, j'avais envie de te poser plein de questions, mais j'aime bien que ça soit toi qui démarre. Et je pense que peut-être c'est quels sont les gens qui t'ont inspiré le plus dans ton immense carrière. Donc on se retrouve, on s'était vu il y a plus de 40 ans. Donc depuis ces 40 ans, puisque avec Barbara c'était il y a 40 ans, quelles sont toutes ces personnes, ces personnalités, ces rencontres qui t'ont vraiment inspiré et guidé jusqu'à maintenant?
Alors à cette époque, la première rencontre importante, c'était Barbara. Alors Barbara, la rencontre au niveau de l'artiste, mais très très vite ça a été la rencontre avec l'univers d'une personne habitée de choses, pour mon époque, c'est-à-dire pour mes 25 ans, étranges. Je te donne un exemple tout simple. Lorsque nous préparions les répétitions avec une équipe de musiciens hors pair, on était 4, mais 4 hors pair, j'étais le plus jeune du lot, adopté par ces gens-là. Première répétition, on est impatient, tout le monde s'installe, et Barbara et Depardieu sont au milieu de la scène, nous sommes chez Patrice Chéreau à Nanterre, et pour moi, de mes 25 ans, il ne se passe rien, c'est-à-dire on joue pas. Et j'avais Marc Chantreau qui était à côté de moi, et Marc, je lui dis, faut que tu m'expliques, parce que y a quelque chose que je comprends pas. Faut qu'on soit seul absolument à 9h, et il est 15h, on n'a pas joué une note. Et Marc m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié, et que je transmets à mon tour à tous les jeunes. Il m'a dit, ce qui est important dans les moments dans lesquels que nous vivons avec des gens comme Barbara et Depardieu, c'est plus notre présence que la musique que nous allons leur proposer, parce que la musique, ils savent qu'elle sera bonne. Mais il dit, notre présence avec notre vibration, notre esprit positif et le fait d'être là tous ensemble, ça les nourrit. Et donc, ils ont plus besoin de nous que du fait que nous soyons en train de leur jouer quelque chose. Et ça, je le reproduis tout le temps. Les musiciens que j'ai plaisir à faire venir avec moi, d'abord je les choisis parce qu'ils ont du talent, mais c'est la base. Et surtout, par rapport à leur dimension humaine et leur envie de partager et d'être heureux dans ce partage.
Le partage, c'est la base des relations humaines, et c'est la base des relations entre les artistes et leur public. Et donc, où est-ce que tu es le plus heureux, en studio ou sur scène?
Alors, moi, j'aime les deux. Alors j'aime les deux qui sont, c'est vraiment complètement opposé. Hein. Alors quand on se retrouve en studio, on est à la recherche de la précision, mais en même temps de l'émotion de l'instant. Quel que soit le nombre de musiciens que j'ai en face de moi, on se prépare, on fait le son, ils me connaissent et ils savent que quand je dis « est-ce que vous êtes prêts ?» j'aime que la première lecture soit la bonne. C'est-à-dire cette première lecture où tu as la feuille devant toi, avec la découverte de la partition que tu n'as pas travaillée chez toi, tu la lis, mais en général, c'est des musiciens qui sont tellement bons que déchiffrer, c'est pas un problème, mais en même temps, ils sont pas encore dans la phase où ils vont se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que je vais le faire, est-ce qu'on va faire le coup d'archer comme ça, est-ce qu'on va le jouer plutôt comme ça? Donc, ils sont dans l'instinct de leur talent. Et là, quand on fait record pour la première fois, avec des bons musiciens, il y a cette magie. Donc ça, c'est le côté studio. Et puis le but du studio, c'est qu'on fixe, c'est une photo, hein. On fixe un instantané, puis après ça fait son chemin, ça va nous servir pour présenter un projet, puis ça va nous servir simplement pour fixer un instant qu'on ne retrouvera jamais. La scène, c'est ce partage avec le public. On va revenir à l'origine avec Barbara. Première rencontre, ça a été les répétitions où j'ai vite compris quel était notre rôle. Et ensuite, ça a été la tournée. En mettant de côté le Zénith, parce que le Zénith, c'est autre chose. On est sur une scène incroyable et on est plus émerveillé et dans l'émotion globale du tout. Mais la scène, on se retrouve au stade de la Beaujoire, en plein hiver. Tout est ouvert partout, il fait un froid, c'est pas possible. Et Barbara me dit rendez-vous à 9h. On joue que le soir, hein. Et moi, j'ai 25 ans. Je dis, mais pourquoi elle veut que je vienne à 9h? Et là, elle m'a pris par la main. Et pendant qu'on marchait, elle m'a expliqué, tu vois, là, on est en train de se préparer à s'imprégner de la vibration du lieu et faire en sorte que ce soir, les gens qui vont venir nous écouter viendront chez nous. Et bien après, je suis venu tous les jours avec elle en avance, dans différentes salles, pour partager ce moment à ses côtés. Et quand le rideau s'ouvrait, elle avait raison. À l'ouverture du rideau, on n'était pas en terrain inconnu. On était prêt pour que cet échange soit le plus beau possible.
Est-ce qu'il y a mieux que ça? Parce que Barbara, là, on voit que c'était déjà le summum, alors, en début de carrière.
Voilà, cette rencontre qui a donné un petit peu comme quand on achète une pelote de laine et on commence à dérouler la pelote. Mais ces années-là, c'était très riche. Bon, j'ai rencontré Michel, j'avais 25 ans. Je suis parti au Japon pour la première fois, j'avais 24 ans. Pendant 5 semaines, rencontre d'une civilisation qu'on ne peut même pas imaginer à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, hein. À l'époque, tout était en japonais, il y avait pas d'anglais nulle part, personne ne parlait. Si on voulait demander du pain, c'était impossible. On a réussi à avoir du pain en disant Bayomambushi des pampes. On l'a dit de comme chez nous. Et le pain, c'est le pain. Comment je pouvais deviner qu'en parlant mal patois, ils allaient comprendre que je voulais du pain? Mais par contre, c'était le fait de découvrir une autre façon de ressentir la musique, ça m'a donné envie ensuite, avec Michel Legrand, de voyager et de voir comment ça se passe dans les autres pays, mais avec toujours la même sensation formidable, c'est que quand le rideau s'ouvre, là, on parle la même langue, on donne de l'amour, on reçoit, et plus on donne, plus on reçoit. Enfin, c'est le principe universel du fait que quand il y a de la lumière, on la reçoit et elle rayonne, quoi.
Et j'avais envie que tu me parles. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, de la sœur de Michel, de Christiane. Voilà, tu penses que j'allais pas rater ça. Et d'un trio que tu avais fait pour elle et avec elle pendant très très longtemps.
Très très longtemps. Alors, c'est en fait la première rencontre. J'étais toujours au conservatoire et pour gagner un petit peu d'argent, j'allais accompagner des cours de chant. Voilà, j'étais chef de chant. Et donc à 20 ans, je rencontre Christiane et Christiane me fait rencontrer des artistes des double six. Et ensuite, il y a eu l'école de Chaillot et elle me dit, il faudrait que tu viennes avec nous comme compositeur et puis comme chef de chant parce que tu travaillerais pour chorégraphe, metteur en scène et on crée des spectacles pour des jeunes de demain. Voilà. Et les jeunes de demain, c'est ceux qui sont à l'affiche là. C'est Sandrine Séville, c'est Alexandre Zambo, voilà. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, de notre passage, du passage qu'ils ont fait auprès de nous, ils ont aujourd'hui une très belle carrière. Et Christiane, très vite on a commencé à faire des concerts et puis elle m'a dit il faudrait qu'on monte un trio, est-ce que tu serais d'accord pour t'en occuper? Elle m'a présenté Marc-Michel Le Bévillon, Et en 88, on a créé le Christiane Le Grand Trio. On a été produit par une maison à Londres. Et puis après, moi, j'ai racheté la licence et j'ai réédité l'album, puisque j'en étais producteur. Je l'ai réédité au Japon. Et on a chanté le trio Christiane Le Grand jusqu'à la fin de sa vie.
Patrice, j'aimerais que tu nous racontes, tu nous évoques... dans les chanteurs, chanteuses lyriques que tu as eu la chance, l'honneur d'accompagner, celui qui t'a marqué ou un événement qui t'a marqué, qui t'a apporté, qui t'a servi tout au long de ta carrière.
Alors moi j'ai un événement qui date d'il y a pas mal de temps. Je participais au Téléthon, donc j'ai participé au Téléthon comme pianiste puis comme chef d'orchestre. Alors comme chef d'orchestre, c'était être pendant les 30 heures sur le coup avec un orchestre à disposition. On était avec Michel Drucker et puis toute l'équipe pour faire vivre cet événement à la disposition de l'antenne, et on avait donc un plateau chargé. Et dans ce plateau chargé, c'est Michel Drucker qui me dit « Écoute, il y a Barbara Hendricks qui voudrait faire quelque chose, est-ce que tu peux aller la voir ?» Bon, alors je vais la voir, puis elle me dit « Voilà, j'aimerais bien chanter l'Ave Maria, et j'aimerais bien le faire piano et harpe. » Et à l'époque, il y avait Jean-Claude Dubois, qui était une légende parisienne qui dirigeait le studio de la Grande Armée, et qui était harpiste à l'Opéra. Et j'ai dit « Écoute Jean-Claude, pour demain, il faudrait que tu trouves la partie de harpe sur ça. » Et puis, je regarde comment c'est fait, on met ça en forme, et on le jouerait pour les enfants. Voilà. Et on l'a fait en direct, hein, on n'a pas le temps de répéter dans ces moments-là. Et en direct, avec quelqu'un qui fait confiance comme elle, et en même temps avec les enfants que l'on voit et ceux que l'on voit sur les écrans, parce que quand on fait l'émission, c'est pas deux enfants qu'on a devant nous, c'est 100. Hein, j'ai jamais oublié ce moment-là. Jamais. Jamais. Par le choix, par sa voix, par sa générosité, et puis par le côté instantané, inattendu, et puis simplement pour l'amour à donner aux enfants. Ouais.
L'amour à donner aux enfants, ouais. Ça c'est quelque chose de fort, parce que quand j'avais interviewé notre ami Pascal Chamoulot il y a quelques semaines, on parlait de la transmission. Tout à l'heure, en off, je te parlais des jeunes que je suivais, etc. On arrive, nous, de notre génération, à aussi voir, on a été, on a vu, on parlait à nos grands anciens, on a parlé de Michel tout à l'heure, mais les jeunes, et donc, ces jeunes que tu vas voir, c'est toi qui vas leur donner envie de faire.
C'est ça.
Tu me disais que tu étais chef de chœur, donc tu as accompagné. Ce rôle d'accompagnant auprès des jeunes, je voudrais que tu nous le racontes.
Et oui, moi j'ai commencé par être l'accompagnant, ou l'accompagnateur, ça dépendait. Mais enfin, disons, allez, l'accompagnant, je trouve que c'est un beau mot. C'est-à-dire, j'étais au service d'eux. Alors, être au service d'eux, c'est se trouver en face de gens qui ont peur, qui vont chanter pour la première fois, ou qui déchiffrent pas bien, ou qui ont doivent rendre faire une audition ou présenter quelque chose deux jours après. Donc, on est vraiment dans une situation, ils sont en danger. Voilà. Et là, le rôle de l'accompagnateur, c'est pas simplement de faire ploum ploum derrière, ça on s'en fout. C'est de les écouter, de leur donner confiance, de les corriger s'il y a un défaut, et de faire en sorte qu'ils se sentent plus, on va pas dire serein, c'est pas possible, parce que ça on n'a pas assez de temps, mais au moins qu'ils se sentent moins désemparés pour se trouver devant l'objectif, quoi. Et ce qui était bien, c'est quand j'avais des gens sur plus longtemps, sur une saison, alors là on pouvait vraiment travailler en profondeur, mais j'aimais beaucoup, c'est ce que je fais aujourd'hui quand on est avec les Demoiselles de Rochefort, j'ai des gens qui arrivent d'Angleterre qui me disent faut qu'ils soient prêts dans deux jours, ça nous paraît impossible, mais ils ont une telle technique et ils ont une telle disponibilité qu'en restant deux fois trois heures avec eux, j'arrive à un résultat parce qu'à la base ils ont une matière formidable, mais je donne tout ce que je peux pour que le lendemain, quand le rideau s'ouvre, dans un clin d'œil, on voit qu'ils sont pas malheureux. Voilà.
Bon, on peut parler des demoiselles de Rochefort dès maintenant, parce que finalement, alors on va parler de l'après Michel, mais l'après Michel le Grand, c'est en partie toi qui va gérer cet héritage musical. Tu vas nous expliquer comment, et notamment donc au travers de comédies musicales qui sont adaptées de films, donc dont Les Demoiselles de Rochefort. Tu peux nous expliquer un petit peu alors sur l'héritage de Michel, mais là spécifiquement sur cette comédie musicale qui se fait encore, et puis je crois qu'il va y avoir d'autres projets aussi après.
Mais écoute, ce qu'on peut faire, c'est partir du point de départ qui est beau, c'est que le dernier projet où Michel a pu voir, c'est Peau d'âne, lorsque nous avons fait Peau d'âne à Marigny, et Peau d'âne s'est créé en octobre 2018, et il m'a téléphoné en juin en me disant voilà, écoute, on va faire Peau d'âne, mais je serai peut-être pas là. Alors il me disait pas je serai peut-être pas là, j'aurais peut-être quitté ce monde, mais je serai pas là à tes côtés, parce qu'on faisait souvent beaucoup pour le théâtre, on faisait beaucoup de choses tous les deux, et je lui dis, oui, mais Michel, en octobre, je suis au Japon et je fais une tournée en hommage à Francis Lai, qui est toujours de ce monde, et où je réorchestre d'un homme et une femme jusqu'à la dernière création, de façon à ce que les orchestrations soient homogènes. Parce que Francis Lai, c'était toujours très très beau, mais c'était différents orchestrateurs, donc différents styles. Et il y avait une très 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 belle relation entre Michel Legrand et Francis Lai. Donc il me dit, c'est pas grave, quand tu rentres de tournée, en timing, ça ira très très bien, et on commence Peau d'âne. Ouais, mais ça a pas du tout marché comme ça, parce que Michel s'est trompé dans les dates. Donc j'ai demandé à un ami de confiance qui est Thierry Boulanger, qui a démarré les répétitions pour Peau d'âne, et nous avons fait Peau d'âne 100 fois à Marigny, et Michel est venu voir la première. C'était mis juste derrière moi, parce que là je dirigeais, hein. C'était mis juste derrière moi, à l'endroit où on voit rien du tout, parce qu'il m'a dit, je veux être à côté de toi. Et pendant le spectacle, au moment où je dirigeais, à un moment, il a mis sa main sur mon épaule, et il m'a dit, faut que je te parle, une fois qu'on a fini le spectacle, et il m'a dit, écoute, j'aimerais que tu prennes soin de toutes les musiques et de tout ce qui peut se passer. Tu en parleras avec mon fils Benjamin, mais je voudrais que tu surveilles toute cette musique. Et puis moi j'ai dit, mais Michel, faut que tu reviennes voir Peau d'âne un jour et que t'en profites, et tu seras au milieu de la salle. Il est venu vers la mi-janvier, on lui a fait l'hommage qu'il méritait, et il est parti un peu de temps après avoir dit, je n'ai plus de notes dans ma tête, et il est parti.
Donc ça fait 6 ans.
Ouais, ça fait 6 ans. Et à partir de ce moment-là, avec l'aide de Macha Merrill, il y a eu la création de la fondation Michel Legrand. Et moi, j'en suis un peu le conseiller musical pour le monde. Et j'ai à mes côtés un ami qui, lui, s'occupe du respect de la propriété intellectuelle, qui est juriste. Parce qu'il nous faut quelqu'un pour veiller à ce qui est vraiment le respect de la propriété intellectuelle d'un de nos génies français. Donc ça fait que lorsque je fais ce que faisait Michel, c'est-à-dire que quand Michel allait jouer quelque part et qu'on lui disait l'orchestre est constitué de, je te dirais, 40 musiciens alors que tu as une orchestration qui est faite pour 80, il allait pas triturer, hein, il prenait une feuille et réorchestrait pour le projet. Donc à chaque fois que Nathalie Dessay va faire un projet où on reprend Piece of Sky ou Papa Can You Hear Me, je réorchestre comme faisait Michel. Ouais. Donc je reproduis ce schéma et je conseille, en fonction, là il va y avoir un concert au Canada, je vais réorchestrer comme Michel l'aura fait, et on envoie les partitions au Canada.
Patrice, alors on va aller maintenant sur Michel Legrand. Tu joues en ce moment, enfin tu diriges une magnifique comédie musicale au Lido, qui est une adaptation du film Les Demoiselles de Rochefort, 8 mois complets, donc jusqu'en juin. On a tous en tête, ça a 60 ans environ, on a tous en tête les sœurs jumelles des Soulcine, des Gébo, qui sont rentrées dans notre culture musicale, dans les paroles de chansons. Outre de nous parler un petit peu de cette comédie, magnifique comédie musicale, je voulais après qu'on parle de l'héritage musical de Michel, de ce qu'il a fait. Donc on a en tête ces comédies françaises, et puis après, enfin ces films en français, là, Les Demoiselles de Rochefort avec Jacques Demy, et puis après aux États-Unis avec, j'allais dire, trois films phares, l'affaire Thomas Crown, l'été 42 et Intel. Voilà, avec Barbara Streisand. Ouais. On commence par Les Demoiselles de Rochefort.
Allez. Alors Les Demoiselles, c'est en fait une idée de Jean-Luc Choplin, qui à l'époque était le producteur et le propriétaire de Marigny, où nous avons fait Peau d'âne. Et son rêve, c'était de faire la trilogie Parapluie, Peau d'âne, Demoiselle. Donc il a créé les Parapluies lorsqu'il était directeur du Châtelet. À Marigny, on a fait Peau d'âne, et là maintenant, il est le directeur du Lido. Et dès qu'il a commencé à faire sa programmation, il a fait une programmation qui a duré une année, peut-être un petit peu plus, et son objectif, c'était de faire les Demoiselles en étant le plus proche possible du film. Donc j'ai pris le film, on a trouvé peu d'archives, donc j'ai fait comme si j'avais rien, c'est plus facile que de prendre des petits bouts et de faire des rustines, et j'ai reproduit scrupuleusement l'écriture de Michel, de façon à ce que pour les 14 musiciens que j'ai sur scène, on puisse retrouver vraiment l'ambiance de ce film. Et on a commencé à répéter le 25 août, on a fait la première le 2 octobre, on devait s'arrêter le 10 janvier, mais très vite Jean-Luc Choplin nous a dit non, on continue et on va jusqu'au 14 juin, et on est complet. Alors, moi j'en suis très très heureux parce que c'est un spectacle créé en France. Il y a une technologie magnifique d'avant-garde, mais on a un véritable orchestre. J'ai un beau mélange. J'ai des musiciens de l'Orchestre National. J'ai Claude Egea à la trompette. J'ai des très bons musiciens de jazz. Et le tout, on le sait quand l'écriture est bien réalisée et que ça sonne bien. On est vraiment dans un rendu vivant et exceptionnel. Et je pense que c'est une juste récompense pour l'investissement qu'a fait Jean-Luc Choplin en tant que producteur, parce que là, il a fait ce qu'il fallait pour que la trilogie soit vraiment bien faite à la mémoire de Michel, et en même temps qu'on ait l'honneur et la fierté d'avoir fait un beau spectacle français.
Alors, les musiques, beaucoup de musiques de films, très célèbres de Michel, donc il a sa carrière en France, avec ses films avec Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne. Il est nominé à chaque fois, il n'a pas les Oscars, il part aux États-Unis, c'est ça, hein? Et puis là, c'est Norman Jewison qui n'arrive pas à boucler son film sur Thomas Crown et qui lui dit « Vous pouvez pas me faire
une chanson,
une musique ?» Et il va lui écrire, je crois, une heure et demie, c'est ça, ou quelque chose comme ça, j'ai bien compris. Et il va monter son film grâce à la musique de Michel.
Et il a un premier Oscar.
Premier Oscar.
Et ensuite, il y a eu un été 42.
Alors, le premier Oscar, là, rappelle-nous, c'est les Moulins de mon cœur.
Les Moulins de mon cœur. Ensuite, il a fait un été 42, qui est devenu aussi un standard. Et ensuite, il y a la rencontre.
Plusieurs standards, même, non?
Dans l'été 42, on a surtout le thème principal qui est que tout le monde joue. Ouais. Et ensuite, il y a cette rencontre incroyable avec Barbara Streisand, où ils ont créé Yentl. Et où Michel. Alors, nous, on connaît Yentl par Barbara Streisand, mais il y a une suite qui s'appelle Between Yesterday and Tomorrow. Et ça, c'est Nathalie Dessay qui l'a enregistré, parce que ça parle de la mort et Barbara Streisand ne voulait pas chanter la mort. Donc Michel l'a créé là, lorsqu'il a fait sa rencontre avec Nathalie Dessay. C'est magnifique, hein. Ça a été enregistré avec l'Orchestre Symphonique de Londres et c'est vraiment très très beau. Mais quand on écoute Yentl, je pense que là, il nous a laissé une page de musique extraordinaire. Chaque titre est extraordinaire.
Tu fais donc les adaptations de comédies musicales et donc je crois les Parapluies de Cherbourg aussi bientôt.
Alors voilà, on est en train de préparer. Là, on a fait déjà le choix de notre orchestre. Ça sera l'orchestre Pas de Loup, et puis j'aurai 6 musiciens de jazz en plus, dont Claude Egea et Denis Leloup. Et on est en train de préparer, la mise en scène sera d'Olivier Py, et on prépare cette création pour le Châtelet. Et en même temps, pour la fin de cette année, nous allons faire en ciné-concert Les Demoiselles. Donc ciné-concert, c'est on prend le film tel qu'il est, les voix sont respectées, c'est-à-dire c'est les voix de l'époque, et on arrive avec l'intelligence artificielle à enlever l'orchestre. Donc il ne nous reste plus que les bruitages et les voix de l'époque. Et on rajoute un métronome, de façon à ce qu'on puisse être synchronisé à l'image. Et moi, je réorchestre ce que Michel avait fait à l'époque, c'est-à-dire que le film est sorti en 67. Donc on va en direct, alors là je pense qu'on sera 100-120, hein, parce qu'il y a des chœurs en plus. Et c'est un spectacle à part entière, parce qu'on voit le film avec une image restaurée qui est très belle, et les voix originales de l'époque, et puis un orchestre magnifique. Donc ça sera pour la fin de l'année de fin de cette année.
En fait, tu réinventes ou tu poursuis l'œuvre de Michel?
En fait, là, je fais ce que Michel ferait. Et j'essaye de respecter au mieux ce que j'ai pu apprendre à ses côtés. Et puis, à chaque fois, je me dis, bah, il faut, s'il était là, il faudrait qu'il soit fier de notre travail. Donc, en même temps, c'est un honneur. Et en même temps, quel bonheur. Quel bonheur de pouvoir avoir cette musique entre les mains. Et puis de faire en sorte qu'on respecte ce génie français.
Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des enregistrements des demoiselles qui pourront être achetés en format numérique?
Alors, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on fasse un DVD avant la fin du spectacle, mais on n'est qu'en janvier. Hein. Donc on va voir. Moi, je trouve que ça serait bien, ouais, qu'il nous reste une trace de ce que nous venons de faire, parce que c'est vraiment beau. Hein. Moi, à mon avis, ça mérite un DVD. Ouais. Mais bon... Jusqu'au 14 juin, on a le temps, tout peut arriver.
Alors, on parlait d'Yentl. Donc, tu nous as parlé des adaptations, finalement, des films français dont Michel avait fait la musique. Mais pour sa période américaine, et tu nous parlais d'Yentl, est-ce que tu envisagerais un jour de pouvoir en adapter des comédies musicales?
Alors, l'objectif de Michel, c'était de faire Yentl sur scène.
Ah, c'est une bonne idée.
Eh oui. Et oui, il avait vraiment envie de faire un spectacle musical de Yentl. Voilà. Donc, c'est resté dans l'idée. Est-ce qu'on pourra aller... Parce que c'est un drôle de truc, hein, quand même, hein, faut créer.
Il faut retrouver Barbara Streisand.
Ben ça, oui, ça. Mais bon, on a quand même des gens qui chantent divinement bien, donc ça, on trouverait. Mais on a quand même encore aussi des inédits de Michel. Donc, on a en particulier des œuvres qui ont été faites avec Didier von Kovelaert comme auteur, comme nous avons fait le Passe-Muraille et puis l'affaire Dreyfus. Donc, pour l'instant, on s'est mis un petit peu dans priorité. Didier von Kovelaert, nous avons le même âge, on s'entend extrêmement bien, et d'essayer de faire en sorte que on puisse peut-être aller au bout de ce que Michel n'a pas pu terminer avant de nous quitter, et par rapport aux œuvres qui sont déjà prêtes et où il n'y a plus que les orchestrations à faire, c'est déjà pas mal, mais parce que si on prend Yentl, on part à zéro, hein. On a que les enregistrements, donc on part à zéro.
Patrice, on arrive au terme de cette magnifique, merveilleuse interview très longue dont tu n'avais pas prévu de nous parler de tout ça. Donc, je suis assez content que tu aies pu le faire. J'avais envie qu'on dise un mot donc sur ce magnifique spectacle qui a eu lieu à l'Opéra de Limoges les 30 et 31 décembre, Atlantide SOS Terre, écrit en partie avec notre ami Pascal Chamoulot. Et puis avec Monsieur Hardy, j'ai oublié son prénom, Jean-Philippe Hardy. Voilà. Donc, je voulais que tu nous en dises un mot parce que c'était un magnifique spectacle. Et puis le retour que tu en as eu.
Alors, tout d'abord, cette idée, elle est venue vraiment naturellement dans ce moment où tout le monde était un petit peu perdu, c'était pendant le Covid. Et donc, on se connaît depuis longtemps avec Pascal, depuis qu'on est ados. Hein. Et on a fait nos voyages, nos histoires. Et puis là, le Covid, c'est bien parce que tout s'arrête. Et moi, j'ai descendu de venir faire cet isolement à Limoges. Voilà, le 18 mars, quand tout s'est fermé, moi, j'ai mis mes affaires dans ma voiture, puis je suis parti à Limoges. Et là, on a parlé, puis Pascal m'a confié cette idée que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Ils me disent, depuis longtemps, je pense à l'Atlantide, non pas à légende qui existe ou pas, hein, c'était pas ça le sujet, c'était le prétexte de comparaison dans un imaginaire où peut-être que un monde où on pratique encore la vertu, où on s'écoute, où il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de bienveillance, se dire, ben, peut-être qu'on peut tout imaginer puisqu'on ne connaît pas ce monde-là, et puis qu'il a disparu et qu'on mélange rêve et légende, d'en faire quelque chose. Et je lui ai dit, je trouve que c'est une super idée. Et puis il m'a dit, voilà, il faudrait que tu me conseilles un auteur. Et moi, je travaille depuis longtemps avec Jean-Philippe Hardy, comme auteur et historien. Et ils ont échangé ensemble sur ce sujet. Et puis très vite, Jean-Philippe nous a écrit un scénario. À partir de là, Pascal a écrit des chansons. Ensuite, moi, j'ai écrit les chansons des enfants. Et puis j'ai écrit cette ouverture qui fait que on est aujourd'hui, grâce à la technologie du moment, comme si en fait avec un drone on allait visiter un monde qu'on ne connaît pas et puis qu'on rentre dans ses entrailles. Et ensuite, on s'est dit, faut qu'on arrive à trouver comment aller au bout de la naissance de ce projet. Là, Alain Mercier nous a tendu la main. Et puis après, on a fait le reste. Et notre objectif, c'était de terminer cette année avec ce projet optimiste, parce que c'est un beau symbole, le 30 et le 31, on se souhaite tous une bonne année, une bonne santé, dans nos cas, ça nous parle. Et puis là, c'était une façon de dire plus, de dire avec beaucoup de bienveillance, comparons ce que nous vivons aujourd'hui avec ce que nous sommes, et puis lorsqu'on a en nous l'envie de parler d'amour et de parler de bienveillance, d'être attentif à ce que dans la transmission, ces mots-là puissent être respectés, et puis surtout qu'on puisse le partager. Et c'est notre sujet. Et donc on était très heureux de pouvoir finir l'année dans de très belles conditions, avec un très bel orchestre et avec une réalisation comme nous l'espérions, et finir avec les honneurs, parce que on a eu le monde que l'on espérait. Et maintenant, notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse, il y a toujours un petit délai, hein, au niveau de l'organisation quand on va dans les opéras, de voir ce que l'on peut faire à partir de 2027. Là, on l'a créé, puis après, on voudrait raconter l'histoire.
D'accord, donc il y aura une suite.
Il y aura une suite, voilà.
Patrice, vraiment, je te remercie beaucoup pour cette très longue et très intéressante interview. Je souris, on sourit ensemble parce que tu n'avais pas forcément prévu de me raconter tout ça. Voilà, donc on a une interview vraiment originale. Et puis donc, on se dit à bientôt parce qu'il y a plein de projets et qu'on va continuer à suivre une œuvre sur le long terme avec le fils spirituel de Michel Legrand, ce qui est un truc extraordinaire, quoi. Voilà. Je me rappelle, tu sais, dans les fils spirituels, Jacques Higelin, j'entends traîner.
Oui.
Ça m'était marqué. J'avais amené mes enfants voir ça. Et j'ai l'impression, entre toi et Michel, il y a quelque chose, tu vois, un petit peu de similaire.
Ouais. Il y a quelque chose de... Moi, j'avais 25 ans quand j'ai rencontré Michel, et que Michel m'a été présenté par Christiane. C'est Christiane qui m'a dit, faut que je te présente mon frère. Et c'est de ces rencontres qui marquent une vie. Parce que il y a l'univers de l'orchestrateur, de génie, Michel est un orchestrateur de génie. C'est un Ravel, c'est un Stravinsky, c'est un mélodiste dans ce style-là qui est assez incroyable. Et puis en même temps, une énergie dans la réalisation. On a tous de l'énergie, mais lui, je sais pas comment il faisait, quoi. Et tout ça pour le fait de jouer. L'envie de poser la partition et qu'on joue. Alors, bah, il avait une impatience, des fois extrêmement désagréable parce que son impatience se traduisait par aucune tempérance. C'est-à-dire, fallait que ça soit bien comme il l'avait dans sa tête. Voilà. Or, il faut laisser le temps à l'artiste, même si c'est un génie, de s'approprier sa partition. Et des fois, son impatience nous faisait vivre des scènes qui étaient désagréables, mais qui étaient très vite balayées par le fait que dès qu'il faisait 3-4, la musique était tellement... En fait, je dirais, la musique était tellement pleine d'amour que ça nous allait. Voilà.
C'est une merveilleuse phrase pour se dire au revoir, voilà. Et se remercier, et se dire à bientôt.
À tout bientôt, bien évidemment, à tout bientôt.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.